on a failli attendre. Voici les déchaînés du football ce soir en direct. Il est 19h05, le magazine des déchaînés du football, comme chaque lundi soir entre 19h et 20h30. Pendant 1h30, on parle foot. On va parler de l'En Avant Guingamp tout à l'heure. Nous allons parler de Lorient et puis de Brest également dans quelques minutes, avec des fortunes diverses ce week-end. Mais globalement, ça n'a pas été très glorieux pour les clubs, les trois clubs pro que nous avons suivis ce week-end. Le magazine des déchaînés du football avec Pierre-Henri Dufay. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
Gaëtan est avec nous en studio. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Bon, Guingamp a perdu contre Pau.
Oui.
Triste victoire.
Triste défaite, triste victoire.
Moi, plutôt
pour
que dire fortune diverse, moi je dirais que les trois nous ont déçus quand même.
Ah oui, oui, quand même. Hein, globalement.
Ça n'a pas été extraordinaire.
Il y a un nul pour le Stade Brestois, mais on aurait pu espérer mieux
parce que Brest a joué quand même en supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure, si ma mémoire est bonne.
Hein. Oui.
Et puis Brest jouait contre Ajaccio. Ajaccio qui perd tous ses matchs. Ajaccio qui ne marque pas. Ajaccio relégable. Ajaccio qui jouera en Ligue 2 la saison prochaine. C'était l'occasion de prendre 3 points à l'extérieur pour Brest, surtout que Nantes est en difficulté également dans ce championnat. C'était l'occasion de prendre un peu d'avance sur Strasbourg et sur Nantes. C'est manqué pour les Brestois, malheureusement, avec ce triste match nul contre Ajaccio. Triste match nul aussi des Merlus.
Non, défaite des Merlus.
Ah oui, pourquoi je dis match nul? Déjà tout à l'heure, on en parlait hors antenne et je parlais du match nul. Ouais, une défaite finalement contre Toulouse des Merlus.
Ouais.
Des résultats, voilà, vous avez bien résumé la situation.
Ouais, et puis des matchs globalement pas en ballant. En fait.
Ouais, des tristes matchs.
Ouais, ouais,
pour des tristes
trois,
matchs, on s'est ennuyé dans beaucoup de ces rencontres. On commence par Brest.
Ajaccio-Brest, ça doit être un des... Ça fait longtemps qu'on est sur Radio Bonheur. Hein. Et je pense que c'est dans les 5 pires.
Ah.
Tellement il s'est rien passé en fait dans ce match, à part le rouge. Et ce qui m'a sauvé personnellement, et peut-être même les auditeurs, c'est qu'on était en duplex hier avec Lorient. Parce que je peux vous dire,
ouais,
ce match-là...
Il y a eu la fin de match avec Nantes. Hein.
Oui, c'est vrai, ça aussi, ça, avec ce qui s'est passé, la main ou le bras de Mostafa Mohamed. Enfin bref, on y reviendra tout à l'heure. On a quand même réussi à faire presque 3 minutes de résumé avec ce qui s'est passé hier, notamment cette première période avec aucune occasion brestoise, que des situations quasiment pour l'équipe d'Ajaccio, le carton rouge et puis la légère révolte brestoise. Mais vous allez l'entendre, il ne s'est pas passé grand-chose hier à François Coty.
C'est pas myself.
Au niveau de son talent, attention à ce centre dans la surface, c'était dangereux. Le centre d'Amouma pour El Idrissi, juste devant le but brestois au premier poteau. El Idrissi qui était cerné par Brassier Chardonnay, qui heureusement n'a pas suffisamment traversé le ballon pour tromper Marco Bizot. Avec le club finistérien. Allez, Fadiga qui frappe. C'était dangereux à l'extérieur de la surface de réparation. Il s'était remis sur son pied gauche. Le Sénégalais frappe contré, qui a pris une trajectoire très dangereuse pour Benjamin Leroy et qui a tapé, hop là, juste le haut du filet. La parade de Bizot ici, grosse parade de Bizot sur une double occasion ajaxienne, un centre venu de la droite qui a été récupéré par Romain Amouma, me semble-t-il, qui a frappé, et Bizot qui a fermé au premier poteau pour empêcher les Corses de mener 1-0. C'est presque la meilleure occasion de cette première période soporifique. Brest qui ramène un peu plus le ballon vers la surface ajaxienne, à l'image de cette frappe là contrée par De Mounier, contrée et derrière la demi-volée tentée, l'enchaînement poitrine frappe de Lesmelou à 25 mètres, Plenax qui ne trouve que les gants de Benjamin Leroy. Mais voilà une petite situation pour les Brestois, mais voilà, ils jouent un peu plus haut.
Après, c'est
gros tacle ici, et carton rouge pour Ajaccio. Carton rouge pour un Ajaccien qui a été, c'est Tousgar qui vient d'entrer. Il a à peine touché un ballon et il est exclu pour une faute dans le rond central. Un geste visiblement dangereux sur Romain Del Castillo. On revoit, il avait la balle pourtant Tousgar, il l'a porté trop loin, le tacle. Oh ah oui, il lui a écrasé la cheville, il était juste à côté, monsieur Stinat. Eh bien voilà, peut-être un autre match qui commence. Ici, Les Brestois l'attaque à Ajaccio, toujours 0-0 au centre de Lesmelou. Pereira lâche Mounier, la parade incroyable. Parade incroyable de Benjamin Leroy, parce que Mounier l'avait fait le geste juste, il avait fermé son pied de volée. C'était une reprise de l'intérieur et malheureusement après le rebond, Benjamin Leroy impeccable. C'est terminé. 0-0 entre Ajaccio et Brest. Un point, c'est tout pour les Tisef.
Et ça se termine par un triste 0-0, donc ce match entre Ajaccio et Brest. Les Brestois n'ont vraiment pas été très offensifs dans ce match.
Non, parce que quand on regarde la fiche statistique de cette rencontre, elle est famélique pour les Brestois. On y revient dans quelques instants. En attendant, on écoute évidemment la première réaction du coach Éric Roy au micro de Prime Video.
Les regrets sur le match, j'en ai presque pas, parce qu'on a tellement eu peu de contenu que pour avoir des regrets, il faut avoir beaucoup d'occasions. On a une ou deux, mais bon, globalement, c'est pas suffisant sur ce genre de match si on veut atteindre notre objectif. Donc sur les derniers matchs c'était beaucoup mieux. Là aujourd'hui c'est vrai que c'était une journée sans. Ça vient surtout de nous. C'est vrai qu'on avait une velléité de bien commencer le match. On l'a mal commencé, d'être beaucoup plus agressif, beaucoup plus de gagner les deuxièmes ballons. On savait qu'ils jouaient long, qu'effectivement il y aurait une bataille au milieu, mais à partir du moment où tu gagnes jamais un ballon pendant la première demi-heure, c'est vrai que tu te retrouves du coup en difficulté. Donc voilà, après forcément. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps était un petit peu mieux. Et puis en deuxième mi-temps, on a dominé, mais en étant stérile, parce qu'on n'a pas eu d'efficacité offensive, mais j'allais dire surtout de justesse dans notre capacité à pouvoir mettre hors de position cette équipe ajaxienne.
Et donc forcément, sans occasion, sans vie, eh bien Brest fait la mauvaise affaire du week-end, non seulement par rapport aux résultats des concurrents, on y reviendra à la toute fin de cette page brestoise, mais surtout par rapport au contexte, parce que Ajaccio était en déliquescence totale, 6 défaites consécutives, 12 revers sur les 14 dernières journées. Tout tendait la main, les bras aux Brestois, plus le scénario, c'est forcément 2 points de perdu pour Brendan Chardonnay et ses partenaires.
Oui, bien sûr, c'est 2 points de perdu. Bien sûr, c'est 2 points de perdu. On vient à l'extérieur chez une lanterne rouge, on joue notre maintien. Et on ne mérite pas plus, on ne met pas les ingrédients. On n'a pas assez mis de combativité, de créativité, même quand ils sont passés à 10. On doit faire beaucoup plus pour prétendre aller chercher un maintien en Ligue 1. Mais il ne reste plus beaucoup de matchs. Donc il faut se forcer, il faut se faire mal. On n'a pas fait assez aujourd'hui, mais je parle collectivement. C'est les 20 mecs, il n'y a personne à viser, bien sûr. On tire tous dans le même sens. Maintenant, il va falloir faire plus et aider mercredi d'après contre Nantes.
C'est vrai, Gaëtan, que parfois on voit des équipes qui s'approchent vers leur rendez-vous et qui ne donnent pas le sentiment de savoir qu'ils jouent pour le maintien. C'était arrivé à Brest en première période, à 3, où ça a été vraiment en dessous de tout. Heureusement, il y avait une réaction seconde période. On avait l'impression qu'il y avait eu cette prise de conscience-là, qu'ils savaient qu'ils devaient s'arracher pour jouer le maintien. Il y a eu des bons résultats, notamment à domicile.
Mais à l'extérieur, ça se répète quand même. C'est pour ça que la semaine dernière, quand on évaluait un petit peu les chances de maintien de Brest, moi je disais plus 50 à 60%, pas forcément plus, parce qu'il y a des matchs comme ça. Alors oui, contre Toulouse, ça a été emballant, contre Nice également. Et puis à 3, il y a une partie du match qui est ratée, le match à Ajaccio qui est encore décevant. Il y a des rencontres comme ça où finalement on sent que Brest est sur une pente ascendante et qu'ils vont pas tout écraser sur leur passage, mais en tout cas qu'ils seront difficiles à bouger. Et d'un autre côté, il y a des matchs où eux-mêmes, je ne vais pas dire se sabordent, mais presque en fait, parce qu'on a l'impression que c'est Brest qui ne gagne pas ces matchs-là plutôt que l'adversaire qui vient prendre un point.
Oui, et puis parfois, il y a des j'allais dire coup de pouce du destin, mais en l'envers, il y a des coups de Trafalgar. On repense au pénalty très généreux donné au Rémois à la 90e minute aussi, lors du dernier déplacement. Et là, la prise de conscience, elle était là, après le match évidemment, mais même pendant le match, écoutez cette réaction d'Aris Belkebla au micro de Prime Video à la mi-temps. Il avait bien cerné ce qui se passait. Problème, il n'y a pas eu beaucoup de suite à tout ça.
Ouais, bah on dort clairement. Il y a un faux rythme qui s'est installé dans la rencontre. Match haché avec beaucoup de fautes. Et c'est ça le piège. Pas s'endormir, il fait un peu chaud. On a tendance à être un peu endormi là. Il va falloir vite se réveiller parce que voilà, on ne fait pas un bon match pour l'instant. Comme j'ai dit, que tout le monde élève son niveau de jeu, que ce soit défensivement, offensivement. On n'est pas dans les duels, offensivement, on joue mal les coups. Plus de justesse, être plus patient quand on a le ballon. Et être plus présent dans les duels aussi.
C'est d'autant plus regrettable que cette équipe de Brest a joué pendant très longtemps en seconde mi-temps en supériorité numérique.
Ouais, alors on va vous laisser ce grand suspense pour après la pause, mais là on peut juste parler des statistiques de la première période. 4 tirs pour Brest avant la pause, 0 cadré. C'était pas assez forcément pour les Brestois. Et on va laisser passer une première page de réclame dans ce magazine. Vous allez entendre les stats à 11 contre 10. C'est terrible. À tout de suite.
Tous ceux pour qui le chocolat, c'est du noir ou rien. 90% minimum. Eh oui. À ceux qui préfèrent le chocolat blanc, même s'ils ne sont que 3. Si, vous êtes 3, je vous ai compté. Et aux autres pour qui le chocolat, c'est du chocolat. Et c'est déjà très bien. Bah bien sûr, attends. En ce moment, chez Intermarché, pour l'achat de 2 produits de la marque Milka, le 3e est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 30 avril, offre valable sur les tablettes, les confiseries et les pâtes à tartiner. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés.
Alors, la checklist, la tente,
check.
Matelas gonflable,
check.
Masque de nuit,
check.
Contrôle du freinage de la voiture,
check. Avec 20% de remise chez Motrio, et bim!
Oh, comme t'es efficace, mon chéri!
Je sais.
Jusqu'au 31 mai, Motrio offre 20% de remise pour toute opération de freinage, voire conditions dans les garages participants.
Cette année, on fête les 20 ans de Motrio, avec plus de 1100 garages en France. Trouvez le vôtre sur motrio.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Alors, bonne pêche ?
C'est du filet de merlan patron. En ce moment, il est à 3,49€ les 200 grammes, moins 19%.
Moins de 3,50€ le filet de merlan ? Y'en a marre, hein, t'entends ?
J'entends, hein, mais un filet de merlan avec un filet de citron, vous je sais pas, mais moi...
Ouais, on est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre programme de fidélité. 17,45€ le kilo, pêché en Atlantique Nord-Est, offre valable jusqu'au mardi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Miam, ça sent le chewing-gum à la menthe.
Bah oui, j'en fais pousser.
Des chewing-gums?
Mais non, de la menthe, du thym, du basilic.
Avec les plantes aromatiques, vos petits plats deviennent magiques. Le végétal, c'est la vie.
Leclerc.
Oh là là, j'espère que je vais gagner. Hein.
De quoi tu parles?
Bah t'as pas vu?
Non.
Avec le super grand jeu, tu peux gagner des bons d'achat, des week-ends ou des séjours.
Super, sauf que moi je gagne jamais.
Ouais bah, sauf que là, après 2 passages en caisse, t'as une sortie plein air offerte. Escalade, rafting, acrobranche.
Génial! Oh ben, bah, je file à la caisse!
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Jusqu'au 13 mai. Offre valable pour l'achat de 2 produits partenaires ou dès 30€ d'achat par passage en caisse. Règlement du jeu, magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Direct Assurance, bonjour.
Si je prends 2 contrats chez vous, vous me remboursez 2 mois d'assurance. Si j'en prends 3, c'est 3. Mais on va où là? Jusqu'à 4. Vous êtes qui pour me faire économiser tout le temps? Mes parents? Si vous continuez comme ça, je vous invite à déjeuner dimanche.
Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer.
Direct Assurance, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Coordonnées de l'intermédiaire et conditions de l'offre à moi direct sur directassurance.fr.
Et vous? Oui, vous. Vous qui allez au stade chaque dimanche avec votre cousin pour supporter le dernier du championnat. On a un bon plan pour vous faire gagner 100€. Comment? En devenant conducteur Blablacar pour votre cousin et d'autres passagers. Parce que Blablacar offre 100€ à tout nouveau conducteur. Alors vous aussi, vous pouvez gagner 100€ de bonus covoiturage. Et ça, sans changer vos habitudes. Téléchargez l'appli Blablacar.
Blablacar, Blablacar.
Voir conditions sur blablacar.fr.
On en parle.
Dans un instant, on se retrouve avec Johan, conseiller EDF à Muret, près de Toulouse, pour parler nouveaux comportements de consommation et économie d'énergie.
Hé hey ! Jusqu'au 30 avril chez Domino's, on t'offre une pizza ! Et oui ! Commande sur l'application et bénéficie d'une pizza offerte à emporter et en livraison.
Domino's !
Offre non cumulable, valable pour l'achat minimum d'une pizza. Pizza offerte égale la moins chère des 2. Conditions et magasins participants sur domino's.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
C'est le magazine des déchaînés du football, ce soir en direct sur Radio Bonheur, 19h19. On continue de parler des Brestois, du stade Brestois 29 et de leur match nul en terre corse hier dimanche.
Oui, avec une équipe brestoise qui s'était procuré pas mal d'occasions à Reims lors du dernier déplacement, contre Nice aussi. On avait dit que le 1-0 Gaëtan était... relativement flatteur pour Nice parce que ça aurait pu être au moins deux pour les Tizèf. Et là, par contre, hier, manque criant de justesse technique pour s'approcher des buts de Benjamin Leroy qui n'a quasiment pas eu à forcer son talent, hein, l'ancien meilleur gardien de Ligue 2, qui a fait qu'un seul arrêt décisif sur une reprise de Mounier qu'on a entendu tout à l'heure dans le résumé. Et ça, forcément, l'entraîneur Éric Roy déplorait ce manque de précision avec le ballon.
Ouais, la justesse, la fluidité, on a redoublé trop de touches de balle, on n'a pas été assez... Alors c'est vrai que la pelouse n'aidait pas parce qu'elle était très très bonne, mais elle était très sec, donc c'est vrai que le ballon n'allait pas très très vite, mais il fallait mettre beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de simplicité dans le jeu, et nous qui arrivons souvent à mettre des ballons dans la surface avec des garçons qui ont de l'impact, aujourd'hui on ne l'a pratiquement pas fait, ou en étant très, très maladroit, soit sur les centres, soit sur les avant-dernières passes. Donc c'est vrai qu'à l'arrivée, dans le contenu, c'est pas assez pour réellement avoir des regrets. La seule satisfaction de la journée, c'est de repartir avec un clean sheet, quoi.
Ouais, c'est léger, mais bon, au moins la série continue. 5 matchs sans défaite. Si Brest garde ce rythme de victoire à domicile, nul à l'extérieur, Gaëtan, on ne devrait pas être loin du compte à la fin.
Ouais, surtout que sur les matchs à domicile, s'ils sont gagnés, il y a du Nantes et du Auxerre. Donc ça voudrait dire des points engrangés en plus face à des concurrents.
Ça va être capital, hein, ce match contre Nantes. Hein.
Ouais, celui-là, il voudra cher, évidemment. Mais oui, ce rythme-là est bon. Là où ça laisse des regrets, c'est en effet parce que c'est à Ajaccio qui est maintenant décroché, et c'est par rapport en effet au contenu qui a été proposé, qui est décevant et qui n'est pas du tout dans la lignée de ce qu'on a pu voir contre Toulouse, Reims et Nice lors des trois derniers matchs. Donc c'est un petit peu là finalement que la déception, au-delà du résultat, c'est là-dessus, je trouve, que la déception est présente pour les Brestois.
Le résultat, le contenu et le contexte et ou le scénario, puisque vous l'avez entendu, Brest a évolué près d'une demi-heure à 11 contre 10, avec l'exclusion de Johan Tousgard qui est resté. L'équipe nous a mis ça aujourd'hui, je crois, 3 minutes 50 sur le terrain. Je vais vous retrouver ça, hein, tout de suite, mais Ajaccio, c'est l'une des équipes qui reçoit le plus de cartons rouges derrière Montpellier. Alors Tousgard, 3 minutes 53, c'est pas un record, mais sur les 10 dernières saisons, c'est le 6e carton rouge le plus rapide de Ligue 1. Le record, c'est Benjamin Mendy avec Marseille. En 2015-2016, il a été exclu au bout de 47 secondes. Bravo.
Ah ouais, donc c'est pour les entrants en jeu, alors parce qu'il y a Todibo qui a été expulsé au bout de 9 secondes cette saison avec
Nice. Ah oui, c'est les remplaçants, effectivement. Remplaçant, oui, effectivement, là, le record de Todibo, ça va être dur.
Celui-là va être dur à battre.
De le battre. Mais le problème, c'est que nous, on en rigole, mais Brest, pas vraiment, parce que la prestation en ce contre 10 n'a pas du tout était au niveau de ce qu'on pouvait espérer. Voici les stats des 25 dernières minutes de ce match, donc avec un joueur de moins du côté d'Ajaccio. Possession de balle, c'est normal, 76% pour Brest, 24% pour Ajaccio. Mais en termes de corner, ce qui montre bien une certaine occupation du terrain et un certain danger, c'est 2 corners pour Ajaccio et 0 pour Brest. Et pire, le nombre de tirs, 1 pour Ajaccio, mais 2 pour Brest. 2 tirs en 25 minutes avec un joueur de plus, sachant que ce match était très important, qu'il fallait absolument le gagner. Gaëtan, c'est insuffisant, impossible.
Ouais, très clairement. Là, et c'est pourtant pas, je trouve, l'habitude de Brest de sur ces matchs-là de ne pas tenter sa chance. Hein. Il y a eu une période, c'est vrai, en janvier-février, où Brest tirait très très peu au but. C'était beaucoup moins le cas ces derniers temps. Et en plus, face à une équipe qui a 10 et qui a énormément de mal, comme c'est le cas d'Ajaccio ces derniers temps, ouais, c'est assez surprenant quand même de la part de Brest. Surtout que ces derniers temps, on l'a vu, hein, Honora qui est de retour plutôt en forme quand même, le Douaron également, Mounier qui est dans le coup aussi. C'est surprenant, ouais, de la part des Brestois, et c'est surtout insuffisant dans un match aussi important dans la course au maintien.
Voici ce qu'en pense Éric Roy, l'entraîneur.
C'est vrai que sur la fin de match, on se retrouve en supériorité numérique, on n'en a pas profité, parce qu'à un moment donné, il faut essayer d'être capable de... Quand on est en supériorité numérique, on sait que l'adversaire va se regrouper, qu'ils vont densifier l'axe. Il faut être capable de jouer sur la largeur, de les faire courir sur la largeur, et après, à un moment donné, trouver dans la profondeur, ou en tous les cas dans l'axe, des frappes, des centres, mais on n'a pas été capable de le faire. Alors c'est vrai que Les petits bémols, c'est que Franck Honora, on l'a vu, était diminué et on l'a sorti assez rapidement. On a fait rentrer Romain parce qu'on sait qu'il a cette capacité et malheureusement, il est blessé, il se fait blesser et il sort très rapidement derrière. Donc il nous a manqué aussi parce que Romain et Franck sont un peu les deux joueurs qui sont souvent les pourvoyeurs de ballon, des garçons qui sont capables justement d'avoir cette justesse technique et de faire la différence par des passes ou des centres. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on les avait ni l'un ni l'autre, c'est vrai que notre jeu s'en est ressenti.
Oui, parce que Del Castillo, il est resté 9 minutes sur le terrain. Lui aussi est entré, mais il a été victime du tacle horrible de notre ami Tousgar. Il est revenu sur le terrain, mais c'était impossible pour lui de continuer. Une grosse entorse, visiblement, pour Del Castillo. Et voilà, Del Castillo avait remplacé...
C'est pas une bonne nouvelle pour lui, hein. Enfin, pour Brest.
Effectivement, et Honora en plus, je crois que c'est encore tendon d'Achille, pour Franck Honora. Ouais, c'est une blessure qu'il avait traîné déjà l'année dernière. Je me souviens qu'il nous avait dit en zone mixte, lorsque le maintien était assuré, qu'il n'allait plus forcément jouer. Il avait été ménagé en fin de saison. Il n'avait pas joué toutes les dernières journées pour calmer cette inflammation au tendon d'Achille. Ça, par contre, connaissant l'importance d'Honora et Del Castillo, comme le dit Eric Roy, ce sont deux pourvoyeurs de ballon. Ça peut être une grosse perte aussi pour l'équipe de Brest.
Oui, très clairement, parce qu'en plus, le replacement de Romain Del Castillo ces dernières semaines en 10, et qui donc alimente les trois de devant, c'était la formule vraiment positive de ces dernières semaines. On l'avait vu contre Nice, contre Toulouse, et d'autres matchs encore, mais c'était vraiment le plus du Stade Brestois là, sur ces dernières semaines dans l'animation offensive. Là, ne pas l'avoir sur sans doute quelques matchs. Alors, par chance, il y a quand même 10 jours avant le prochain match. Peut-être qu'en forçant un petit peu les choses, il pourrait être présent. Mais est-ce que c'est une bonne chose de forcer? Ça, c'est le staff médical qui le jugera. Mais bon, c'est vrai que si Brest devait se passer de Del Castillo sur quelques matchs, et notamment les matchs couperets là qui arrivent, ouais, ça, c'est vraiment la mauvaise nouvelle en plus du résultat d'hier.
Un point sur le maintien. Brest est donc repassé relégable hier parce que Auxerre a fait nul contre Lille samedi, et surtout parce que Strasbourg a gagné 2-0 à Reims. Nantes a arraché à la 98e un but très litigieux contre 3 pour un nul de partout. Auxerre est donc 14e avec 33 points, moins 23 de différence de but. Forcément, on est obligé d'en parler maintenant. 15e Strasbourg, 32, moins 10. 16e Nantes, 32, moins 11. 17e Brest, 32, moins 13 pour les Brestois. Voilà, ça joue vraiment à rien du tout, sachant que sur la prochaine journée, on le rappelle, mercredi 3 mai, Brest, Nantes à Le Blé, sachant aussi que Brest recevra, vous l'avez dit Gaëtan, Auxerre aussi lors de la 35e journée. Il y aura un Nantes-Strasbourg lors de la 34e journée, donc après Brest-Nantes, hein, Nantes qui va jouer deux conquérants directs tout de suite à Brest puis contre Strasbourg. Et le calendrier, on en parle encore, mais quand on regarde un peu les six journées qui restent, le calendrier est très compliqué. C'est pour Auxerre qui va à Marseille lors de la prochaine journée, qui va à Brest aussi lors de la 35e, qui reçoit Paris, qui va à Toulouse et qui reçoit Lens. Ils vont jouer les trois premiers sur les six dernières journées.
Ouais, avec toutefois deux bémols, parce qu'il y a match en effet contre Toulouse qui n'aura plus rien à jouer, match contre Clermont, même chose. Et un match contre Brest qui, s'ils le gagnent, parce que ça reste une possibilité, pourrait aussi les redresser en cas de contre-performance face au gros. Donc, mais c'est vrai que c'est quand même le calendrier le plus complexe, hein, sur le papier par rapport à ceux de Nantes, Brest et Strasbourg. Après, Nantes, on disait, ouais, ils vont jouer les concurrents, mais il n'empêche que là, ça fait deux matchs face aux concurrents Auxerre et Troyes, et ça fait qu'un seul point, et encore à l'arrache contre l'Estac. Donc bon, à voir, mais c'est vrai que sur le calendrier, sur le papier, c'est le calendrier auxerrois, hein, qui est le plus délicat.
C'est Auxerre, selon vous, qui aura le plus de difficultés à se maintenir?
Moi, je le redis, pour moi, ça va jouer entre Auxerre et Nantes, je pense. Après, évidemment, Brest et Strasbourg sont encore dans le lot, hein, mais j'ai l'impression que ça va être la bataille entre ces deux-là, surtout
Auxerre ou Nantes.
Auxerre ou Nantes.
Vous avez un favori pour la descente?
Entre les deux, c'est compliqué quand même.
Vous étiez beaucoup plus loquace au téléphone ce midi. Hein.
J'ai dit quoi? J'ai dit ouais, que Nantes, c'était catastrophique. Quoi.
Donc ouais, Nantes en Ligue 2.
En fait, il y a la finale de la Coupe de France qui va peut-être jouer son rôle aussi là-dedans. Si Nantes la perd, ça peut vraiment être catastrophique. S'il la gagne, peut-être qu'il y aura un élan.
Ça peut donner un élan, oui.
Il faut peut-être attendre la finale pour en savoir un petit peu plus. Mais honnêtement, je suis assez peu confiant quand même pour Nantes. Ouais.
Moi, je reste, je ne sais plus si je l'ai dit il y a un, deux ou trois mois, je reste sur Auxerre.
Ouais, Auxerre.
Je ne dévierai pas. Même quand ils seront maintenus, je dirais que Auxerre
le maintien va se jouer.
Brest
l'année dernière. Et Lorient début de saison.
Le maintien va se jouer à combien de points, messieurs? Parce qu'on a souvent parlé d'un maintien à seulement 35-36 points. Ça va être plus. Ça va être
42, je pense.
Ah, ça va être plus de 40 points.
En plus, là, le problème, c'est qu'il y a 4 équipes qui descendent. Si avec les 3, c'est déjà fini. Ce serait déjà fini. Avec 22 points pour 3 et Ajaccio. Ouais, au-dessus de 40, ça paraît une évidence.
Je pense qu'à 42, il y a des chances que les clubs soient maintenus parce que tout le monde ne va pas prendre 10 points non plus là, sur les 6 derniers matchs qui restent.
Ah oui, non, ce sera moins de 42, je pense.
Mais je pense qu'il faudra 42 pour être sauvé parce que derrière, ce sera peut-être 40, 41 et on n'y aura pas trop de marge.
On verra.
Après, le désavantage aussi d'Auxerre, c'est la différence de buts parce qu'encore Strasbourg et Nantes et Brest, ça se tient en 3 buts. Auxerre, c'est moins 23. Hein. C'est 10 de différence par rapport
à. Il y a ce bémol.
Il y a encore 18 points à prendre pour chaque équipe.
Oui, et comme il y a le jeu des confrontations directes, il y a des équipes qui vont peut-être avancer assez vite finalement.
Sachant qu'on a une dernière journée, si les 4 sont encore dans le coup, ça peut être terrible. Hein, parce qu'il y a Auxerre-Lens, Lorient-Strasbourg, donc Gaëtan, vous serez aux premières loges, Nantes-Angers et Brest-Rennes.
C'est facile pour Nantes, le dernier match. Enfin, c'est plus facile.
On contre 3 aussi, et puis finalement.
C'est sûr.
Donc Angers qui n'aura plus rien à jouer du tout, aussi bien, ils vont venir. Bon, en principe, c'est vrai que. S'il y a un match à enjeu contre le SCO à domicile, je pense que Nantes sera capable de le gagner quand même.
19h30, on va passer après Brest à la page Lorient. Lorient qui a déçu également ce week-end. Alors heureusement, les joueurs de Lorient ont de l'avance au classement. Mais quand même, on est déçu par cette équipe de Merlu depuis quelques semaines, quelques mois.
Merci d'écouter Radio Bonheur. Chaque semaine, Radio Bonheur est écouté par plus de 225 000 personnes en Bretagne. Sondage Médiamétrie Média Local en habitude d'écoute, 225 600 personnes, auditoire semaine, Radio Bonheur en Bretagne, septembre 2020 à juin 2022, du lundi au vendredi, 13 ans et plus.
Ah, j'étais persuadé, moi, qu'effectivement, les Merlus feraient 0-0. Et puis, il y a eu ce but de Toulouse, et finalement, c'est pire que ça. C'est une défaite, mais en tout cas, on n'a pas vu des Merlus, en tout cas, vouloir gagner ce match.
Non, alors vouloir ou peut-être pas capable de faire plus, finalement, Merlus, parce que ça se répète.
Dans les deux cas, c'est inquiétant.
Oui, depuis plusieurs semaines, ce sont des matchs que l'on a un peu l'habitude de voir maintenant du côté de Lorient, avec une équipe. Globalement, pour la plupart du temps, assez solide, qui ne concède pas forcément énormément de cases, mais terriblement inoffensive, stérile lorsqu'elle a le ballon. Il ne se passe pas grand-chose dans les matchs de Lorient. L'animation offensive, très clairement, depuis le départ de Mofi et Ouattara, on le répète encore, mais elle n'a pas été retrouvée. Pour preuve, hier, ce n'était pas Bamba Dieng, l'attaquant de pointe, mais Ibrahima Koné. Le résultat a été plus ou moins le même, finalement, à l'arrivée. Donc, une équipe qui n'a logiquement pas marqué. Il y a eu un seul tir cadré pour Lorient dans le match. Un poteau aussi dans le temps additionnel. Mais c'est évidemment bien trop peu quand même rapport à ce qui était attendu.
On n'a pas d'inquiétude sur Lorient dans ce championnat. Ce qui serait embêtant, c'est que ça continue lors de la saison prochaine. Parce que depuis quelques mois, avec les résultats des Merlus, si on n'avait pas cet excellent début de saison, Lorient serait dans les relégables.
Ah, exactement, Lorient serait relégable. J'étais juste en train de vérifier et je vais terminer ça pendant le résumé, mais depuis le début de la phase retour, Lorient doit être quasiment relégable. En tout cas, sur les 20 derniers matchs avant le Lorient-Toulouse, Lorient avait un rythme de relégable 17e avec 19 points, c'est même pas un point par match. Donc oui, la tendance n'est pas bonne.
Attendre 10 secondes, je vais vous le dire.
Ah, c'est ça évidemment. Les Merlus, on le disait, un seul tir cadré sur ce match-là, c'est pas suffisant.
Nettement, oui.
Ah non, 16e.
Ah, juste au-dessus.
Avec 2 points.
Alors 16e, depuis quand? Depuis les matchs retour.
La phase retour. Ouais. Et juste au-dessus, c'est Rennes, 15e.
Ouais. Rennes, Lorient, Nantes. Les Bretons sont en grande forme.
Brest, 13e. Quelle horreur, on est tous derrière.
Mais non, ça montre un peu la difficulté depuis des semaines maintenant. Et pourtant, on n'a plus tellement non plus l'excuse de. Les recrues, le temps d'adaptation, ça fait quand même maintenant plus de 3 mois qu'ils sont là, 3 mois et demi. Non, 3 mois, parce qu'ils sont arrivés à faire du mercato. 3 mois qu'ils sont là, Lefebvre, Dieng, Makengo qui était absent hier. Bon, et on n'a pas vu vraiment de nette amélioration, de net progrès dans les prestations fournies par les uns les autres. Bon, on va avoir le temps d'y revenir. On commence en tout cas par écouter le résumé de ce Lorient-Toulouse, de cette défaite 1-0 au Moustoir. Attention ici à Lorient, le centre toulousain, Unai Wu qui va reprendre à côté du but, à côté du but de Mvogo. Il n'avait pas été attaqué dans la surface de réparation suite à un centre d'Abouklal. Unai Wu qui a eu le temps de se retourner dans la surface, de frapper au but. Ça passe à côté de la cage d'Yvon Mvogo. Voilà la première occasion. Avec Abouklal, Abouklal sur son pied droit, la frappe juste au-dessus du but de Mvogo. Il semblait sur la trajectoire, le Suisse, mais là encore, il y avait trop de liberté, trop de champ laissé à Abouklal pour tenter sa chance et pour chercher le cadre lorientais. C'est une nouvelle fois pas cadré. Silva ici à Lorient sur ce centre d'Enzo le fait, un centre au sol qui semblait anodin au départ, et finalement Silva qui a poursuivi sa course, qui a pu frapper du pied gauche le droitier, le ballon passe à côté, mais ça y est, première occasion des Merlus. Du pied droit, allez, pour amener du danger. Deuxième poteau, la tête de Nikolaïsen et le ballon capté par Yvon Mvogo. Il était arrivé tout puissamment, Nikolaïsen, pour taper ce ballon de la tête. Attention au Toulousain avec ce ballon dans la surface, balle de but et l'ouverture du score. Le but de Zakaria Abouklal pour les Toulousains. Abouklal qui vient marquer au Moustoir son 8e but de la saison en Ligue 1. Le décalage côté gauche, une défense lorientaise bousculée dans le dos notamment avec cet appel d'Abouklal. Et c'est Toulouse qui ouvre le score sur la pelouse du Moustoir, 68e, 1-0 pour le TFC.
Aïe aïe aïe.
Allez, peut-être amener du danger avec Laurent Abergel qui peut tenter sa chance. Le poteau, le poteau d'Abergel sur cette frappe aux 20 mètres, elle avait été contrée, elle a fini sur le poteau. Toujours 1-0 pour Toulouse.
Mais ça se termine par 1-0, ce triste match. C'est inquiétant quand même, je poursuis, mais Lorient n'arrive plus à marquer, tout simplement.
Non, marque très peu, en effet. Lorient, on le disait, est inoffensif. Et puis, on a des recrues qui ne pèsent pas assez pour l'instant dans le jeu de Lorient. Je pense à Romain Fèvre, hein, par exemple. On débattait entre les uns et les autres. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord hier. Mais c'est vrai, Romain Fèvre, ça a été sans doute le joueur offensif le plus remuant. Mais à l'arrivée, quand il a le ballon, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que ça apporte à l'équipe ? Ben pas grand-chose. Y a des débordements, il y a quelques centres, et encore quand il arrive à centrer, parce que bien souvent en un contre un, ben il perd le ballon face aux défenseurs adverses. Les centres, il n'a quasiment jamais servi Ibrahima Koné. Sa meilleure percée, c'est celle aux alentours de la 20-25e, lorsqu'il élimine 2-3 Toulousains avant de frapper à l'entrée de la surface. Mais à part ça, finalement, il y a énormément de déchets dans ce qu'il produit. Pour preuve d'ailleurs, c'est le Lorientais qui a perdu le plus de ballons hier, 20. Romain Fèvre, alors parce qu'il a un jeu de provocation qui nécessite forcément un peu de déchets, mais quand même, hein, 20, ça fait beaucoup. Derrière lui, c'est Enzo Lefebvre, 18, dont 14 en première période. Enzo Lefebvre qui est passé à côté de sa première mi-temps hier. Et ça fait quand même des leaders, ou des joueurs censés être des leaders, qui sont en deçà du niveau attendu. Prestation globalement insuffisante par Laurent Abergel, qui n'a pas voulu citer l'un ou l'autre, mais prestation insuffisante globalement de la part des Merlus.
On a essayé de faire mieux qu'à Monaco. C'était pas compliqué non plus. Donc on a essayé de bien aborder le match. On a des temps forts, on a aussi des temps faibles. On n'est pas assez tranchant, on va dire, offensivement. Et je parle pas que des attaquants directement. C'est un tout. Je pense qu'on doit peser un peu plus sur leur défense et être un peu plus dangereux. Et ensuite, on aurait aimé faire un clean sheet aussi. Au moins, on aurait au moins pris un point. Mais c'est quand même pas assez pour pouvoir l'emporter encore aujourd'hui.
Non, c'est pas assez. On le disait, un seul tir cadré pour Lorient dans ce match. Et puis donc le poteau quand même d'Abergel à la fin. Des Lorientais, alors qu'ils avaient retrouvé une formule qu'ils avaient utilisée face à Marseille il y a 2 semaines, une formule à 5 défenseurs. Ils l'avaient abandonnée à Monaco, ils l'ont remise au goût du jour là, face à Toulouse. Alors pourquoi ? Quelle a été la raison de ce choix finalement d'alterner pour Régis Le Bris ? Écoutons le coach des Merlus.
J'irais réfléchir à l'équilibre de l'effectif. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de se créer autant de situations qu'on veut, d'avoir une efficacité globale dans un système, et qu'on le joue depuis plusieurs mois sans vraiment trouver une progression qui soit suffisamment significative, ben on doit évoluer. Donc on avait déjà utilisé ce système sur Marseille, qui nous avait, je dirais, permis de bien défendre notre but essentiellement. Donc je crois qu'avec des joueurs comme notamment Romain, Enzo, derrière la ligne de milieu adverse, ça peut être une bonne solution pour trouver des phases d'accélération et puis être plus impactant sur le but. Donc il y a eu des moments comme ça aujourd'hui dans le match, pas suffisamment encore pour être suffisamment impactant, mais il y a quelques prémices qui sont plutôt encourageantes.
C'est vrai que ce système, Pierre, il demande peut-être à être revu quand même, parce que sur le papier, Lorient semble avoir un effectif qui pourrait être conçu pour un schéma comme celui-là.
Oui, après, on sait que dans ce système-là, le poste ou les postes les plus importants, ce sont ceux de piston.
Ouais.
Et on ne peut pas dire, sans dire que ce sont de mauvais joueurs non plus, mais que Yongua et Silva puissent être des fers de lance de cette équipe.
Moi, je mettrais plus Kathleen à droite à la place de Silva, du coup, s'il fallait rééditer la performance. Mais
ouais.
Pourquoi
mais
pas.
Mais même Kathleen, qui fait une saison globalement décevante, même si c'est sa première en Ligue 1 et il faut absolument être patient avec lui comme d'autres jeunes qui découvrent le championnat. Mais ouais, il se cherche quand même, hein, le Gris. On sent que ça tâtonne un petit peu, ça ne marche pas. Alors on peut pas lui reprocher, hein, de chercher la bonne formule. Ça, ouais. Et à Monaco, il était passé aussi à 3 derrière en seconde période, parce qu'à 4, ça ne marchait pas. Voilà, il se cherche. Et pour l'instant, la solution ne revient pas. Mais ouais, moi je suis un peu perplexe sur ce système par rapport au profil des pistons,
ouais,
qui ne sont pas des points forts de l'effectif cette année.
Ouais, en même temps, c'est vrai qu'Yongua l'a pas vu beaucoup pour l'instant, mais de l'autre côté, ouais, Silva, Kathleen, ça amène peut-être pas assez encore de garantie. Et surtout, ce système à 5, il a été en plus utilisé avec 4 milieux de terrain à plat, un seul attaquant. On avait donc Enzo Lefebvre en ailier en fait devant le piston, et Enzo Lefebvre, on sait que sur le côté, ça avait déjà été testé en Ligue 2 par Christophe Pélissier, en Ligue 1 par Christophe Pélissier, à nouveau là avec Régis Lebris, et ça n'a quasiment jamais été une grande satisfaction, sauf lorsqu'il s'agit d'être plutôt défensif, comme face à Marseille par exemple il y a 15 jours. Mais lorsqu'il faut produire le jeu, le fait à gauche, j'ai quasi pas de souvenir de l'avoir vu livrer un match aussi impactant qu'un vrai ailier à son poste, ou aussi impactant que lorsque lui joue dans l'axe. Bon, comme vous le disiez, Pierre, Régis Lebris cherche la formule actuellement du côté de Lorient. Deuxième page de réclame dans ce magazine des déchaînés du football, et on revient tout de suite pour la suite de cette partie lorientaise.
Voici la première compilation de Silver Burlot.
Mon Dieu, que j'en suis à mon aise, comme Mamiette auprès de moi. Amis danseurs, je vous emmène là où tout est beau. Plage jolie, fille en bikini sur le sable chaud.
Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc.
Mon ami, c'est la solitude, avec elle je me sens moins seul.
Ohé, 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 venons cap à l'ouest. Ohé, 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 adhère à la santé.
La compilation de Silver Burlot contient 281 titres, soit plus de 15 heures de musique. Vous pouvez obtenir la première compilation de Silver Burlot sur une clé USB pour 49 euros, frais de port offerts. Pour commander, rendez-vous à la boutique Radio Bonheur ou en téléphonant au 02 96 63 00 63.
Radio Bonheur.
Allez, retour des déchaînés du football, 19h44.
Oui, et on continue de parler de Lorient et de cette défaite face à Toulouse. Un but à zéro, le but de Zakaria Bouclal à la 68e minute. Et des Merlus, on disait inoffensif, très peu d'occasions et globalement un manque de folie, des temps forts beaucoup trop éphémères. C'est d'ailleurs le terme que va employer Régis Lebris. On l'écoute tout de suite.
Ouais, ils sont pour le moment trop éphémères en fait. Et donc on peut avoir quelques phases d'attaque, réussir à récupérer le ballon assez rapidement, mais ensuite on a du mal à peser. Donc c'est l'enjeu de cette fin de saison, c'est l'enjeu de ces nouvelles associations et des positionnements qu'on est en train de tester, que de trouver un tout petit peu plus de poids et de manière à être plus impactant.
Oui, être plus impactant. Alors est-ce que ça passera par ce schéma 5 derrière au départ? Est-ce qu'on reviendra sur un 4-4-2, 4-2-3-1, on verra la formule effectivement de Régis Lebris dans les prochaines semaines.
Après, le manque de folie, c'est beaucoup dû aussi à la confiance. Hein. Vous pouvez mettre tous les systèmes en place. Ce qui compte, c'est ce que vous avez dans la tête, la confiance et puis l'animation que vous y mettez. Forcément, la vue comment.
Pourtant, il n'y a plus de pression quoi, sur cette équipe.
Ouais, mais les résultats. Ont tellement freiné et il y a tellement de joueurs majeurs qui sont partis offensivement que pour certains c'était plus facile de se montrer à la hauteur. Je pense par exemple à Kathleen où c'était plus facile de briller dans le sillage de Ouattara et Mofi, sauf que quand vous vous retrouvez comme ça presque titulaire tout le temps, c'est pas le même statut, c'est pas la même pression non plus, et on voit bien que cette équipe lorientaise manque d'initiative. Je me souviens du match à Monaco, on le disait bien, c'est normal que Monaco soit plus fort, mais Lorient n'a rien tenté, il n'y avait pas de joie qui se dégageait de cette équipe, et ça se voit quand même, Gaëtan, que il y a un manque de confiance quand même dans les têtes.
Oui, il y a un manque de confiance assez important. Et puis il y a des joueurs qui, je trouve, ont baissé aussi de niveau. Même Laurent Abergel, hein, dans le milieu de terrain, qui souvent est un petit peu celui qui dicte le tempo. Hier, sa première mi-temps, elle n'a pas été très bonne non plus. Je crois que c'est à Monaco, à Lille, qu'il avait dit aussi qu'il avait fait un mauvais match.
Ouais.
Bon, il y a des cadres aussi finalement qui ont perdu un peu de leur niveau. Enzo Lefebvre, on le disait, hein, qui n'est plus le même non plus depuis quelques semaines. Donc forcément, tout cela amène quelques doutes. Alors là où c'est plutôt encore bien en place, c'est derrière finalement. On a Meïté, même s'il est coupable en partie hier sur le but, il livre globalement des bonnes prestations. Talbi aussi. Le Goff, c'est plutôt propre dans son rôle, qui bouge parfois parce qu'il était hier axial gauche et non pas latéral. Mais voilà, c'est peut-être la seule satisfaction, c'est l'animation défensive qui, elle, reste globalement, parce que c'est pas toujours le cas, mais globalement plutôt solide. Et on a en plus eu hier le retour du gardien, Yvan Mvogo, blessé le 6 novembre face au Paris Saint-Germain lors de la défaite de Buzyn. C'était deux semaines avant le départ pour la Coupe du Monde. Forcément privé de Coupe du Monde, Yvan Mvogo, il a eu une lésion en fait du tendon rotulien du genou droit. Et donc ça l'a éloigné des terrains jusqu'à il y a une semaine, parce qu'il avait fait son retour dans le groupe la semaine dernière. On lui avait même annoncé, diagnostiqué une fin de saison éventuelle. Il est finalement revenu, il était tout heureux malgré la défaite d'avoir retrouvé les terrains de Ligue 1. Écoutez le gardien Mvogo.
Ouais, c'était 80, en tout cas de ma part, c'était 90 bonnes premières minutes, franchement, pour revenir aux sensations. C'était un match comme ça qu'il me fallait, toucher beaucoup de ballons, et même si j'avais pas beaucoup à faire d'arrêt spectaculaire ou quoi que ce soit, j'ai su répondre présent. Et c'est vrai que la défaite a fait mal, parce que franchement derrière on a bien tenu le coup, on jouait bien, même dans les sorties de balles on était super. Il y a eu ce petit moment où on devait encore se repositionner, savoir qui prenait la place de qui, ou voilà, il y a eu ce but qui est tombé. Mais comme je l'ai dit, à titre personnel, je suis satisfait de ma performance. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais après 5 mois de blessure, c'est plutôt une performance satisfaisante.
Oui, satisfaisante pour le gardien Yvan Mvogo, qui a confirmé qu'il allait prolonger son contrat d'une saison à Lorient jusqu'en 2025. Mais des Merlus qui, pour la première fois de l'exercice, eh bien, quitte le top 10. 11e place pour le FCL, c'est donc la plus mauvaise place de la saison. Alors, est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que ça fait un petit peu mal à la tête quand on regarde ce classement? La réponse du capitaine Laurent Abergel.
Ah, c'est frustrant. On a bataillé, c'est pas facile de gagner des matchs en Ligue 1. On a essayé de faire une, une grosse première partie. On essaye de faire aussi mieux la deuxième partie. Mais c'est sûr que de sortir de. C'est significatif de ce qu'on propose sur la deuxième partie. Donc on s'accroche et on va tout faire pour repasser dans ces 10 premiers au moins.
Bon, ce qui est sûr, c'est que la deuxième partie est moins bonne quand même.
Ouais, et pour faire aussi mieux, il va falloir gagner quelques matchs. Laurent Bergel, 11e place pour les Merlus, on le disait, donc 45 points, comme les Niçois qui sont 10e. Lorient est par exemple à 2 points de la 8e place, à 5 quand même de la 7e. Pas inquiété non plus, derrière, il y a encore 4 points avec Montpellier, 4 avec Toulouse, 5 avec Montpellier. Et il y a un delta ensuite hein, avec Auxerre évidemment. Mais ce serait quand même une déception pour les Merlus que de ne pas terminer dans la première partie de saison, après y avoir, dans la première partie de tableau, après y avoir été quasiment toute l'année. Pour l'instant, 11e, les Lorientais avec 45 points. Le prochain match de Lorient, ce sera un déplacement dimanche. Samedi ou dimanche ? Dimanche, Pierre. Hein ? Ouais, dimanche.
Dimanche.
Dimanche sur la pelouse du Parc des Princes.
Oui.
Un PSG.
17h05.
PSG Lorient, exactement, 17h05. Et pour les Brestois, on l'a dit, ce sera le mercredi 3 mai, puisque Nantes jouera la finale de la Coupe de France la semaine prochaine. Mercredi 3 mai, 21h, Brest-Nantes au stade Francis Leblé.
On en parle.
Cet hiver, la consommation d'électricité a baissé de près de 10%, preuve que la sobriété énergétique fait partie désormais du quotidien des Français. On en parle avec Johan, conseiller EDF, qui est avec nous depuis Muret, près de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai qu'au début de l'hiver, la situation n'était pas évidente.
Effectivement. Mais grâce à une prise de conscience et à une mobilisation collective, on a réussi à traverser cette période dans de bonnes conditions.
Et qu'aimeriez-vous dire aux Français qui ont joué le jeu de la sobriété ?
Eh bien bravo et un grand merci. En adaptant leurs habitudes de consommation d'énergie au quotidien, on a vu des résultats à la fois au niveau individuel et collectif.
C'est très bien. Alors maintenant que l'hiver se termine, qu'est-ce que vous leur dites ?
Eh bien, les Français ont bien vu l'impact de leurs efforts. EDF continue de les accompagner vers plus de sobriété et plus d'économie, avec des conseils et des solutions durables qu'ils peuvent découvrir sur edf.fr ou en m'appelant au 3004.
Merci, Johan.
On en parle. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Source RTE sur la semaine du 11 décembre 2022.
Il était une fois un beau prince charmant.
Mais aussi un peu transpirant, hein, après autant d'efforts à la salle de sport.
Heureusement pour lui, il découvrit le gel douche Le Petit Marseillais à 3,14€ les 650 ml chez Aldi.
Et depuis, du biceps, oui, mais du biceps qui fleure bon.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Dès demain chez Aldi, 4,83€ le litre, 30% de remise immédiate, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr.
Hey ! Jusqu'au 30 avril chez Domino's, on t'offre une pizza ! Et oui, commande sur l'application et bénéficie d'une pizza offerte à emporter et en livraison.
Dodo Domino's.
Offre non cumulable, valable pour l'achat minimum d'une pizza. Pizza offerte égale la moins chère des deux. Conditions et magasins participants sur domino's.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron ?
Oui, quoi encore ?
Je suis chez Lidl et en ce moment, ils font la barquette de 4 pommes Joya à 1,49€.
Comment ? La barquette de 4 pommes Joya à moins d'1,50€ chez Lidl ?
Bon, c'est pas possible.
Ah bah si, c'est possible. Et en plus, elles sont origine France.
Ah bah, pour nous, c'est vraiment pas de la tarte.
Oh, tarte aux pommes.
Lidl, trop fort sur les prix depuis 13 ans, et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée Cancet 2022. Catégorie 1, variété Joya, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Le 28 avril, entrez dans le nouveau monde de l'espionnage de Citadel, la nouvelle série. À ne pas manquer, seulement sur Prime Video.
Vous êtes prêts ?
Les producteurs délégués, les frères Russo, avec Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas et Stanley Tucci.
Tout ce que vous savez est un mensonge.
Citadel, nouvelle série le 28 avril, seulement sur Prime Video.
T'as vu ? Nos voisins ont été cambriolés. Tu connais un réseau de serrurier agréé pour nous poser une porte blindée ?
Point fort fiché, bien sûr. Du 10 avril au 7 mai, c'est le mois de la sécurité. On peut profiter de remises jusqu'à 700€.
Portes, serrures connectées, fenêtres, garages, volets, portails, pergolas. On va sécuriser toute la maison avant les vacances.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Point fort fiché, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Alors, la checklist, la tente,
check.
Matelas gonflables,
check.
Masque de nuit,
check.
Contrôle du freinage de la voiture,
check. Avec 20% de remise chez Motrio, et bim !
Oh, comme t'es efficace, mon chéri !
Je sais, je sais.
Jusqu'au 31 mai, Motrio offre 20% de remise pour toute opération de freinage, voire conditions dans les garages participants.
Cette année, on fête les 20 ans de Motrio, avec plus de 1100 garages en France. Trouvez le vôtre sur motrio.fr.
Dans une maison de vacances à Britel, il n'y a que vous. Vous ne partagez le canapé, votre crème solaire ou de bons moments qu'avec vos proches. Parce que des vacances sans intimité, ce ne sont pas vraiment des vacances. N'est-ce pas? Des maisons de vacances, rien que pour vous. Réservées sur l'appli Abritel.
Les déchaînés du football, on est en direct, 19h54, minutes après avoir parlé des clubs de Ligue 1, nous parlons des clubs du championnat amateur, National, National 2 et National 3, et on commence par le championnat de National 3.
Exactement, et avec le match nul de la Saint-Pierre de Milizac sur la pelouse de Lannion ce week-end, 0-0 sur cette rencontre, et pour revenir sur ce match et plus globalement sur la fin de saison de Milizac, nous avons avec nous l'entraîneur Johan Boulic. Bonsoir Johan.
Bonsoir.
Alors bonsoir. On disait un match nul, sans but à Lannion, c'est un résultat logique finalement par rapport aux prestations des uns et des autres.
Nous on ne pouvait pas espérer grand chose de mieux, puisque comment dire, on a proposé une petite prestation, alors bien embêté aussi par cette belle équipe de Lannion, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de Milizac aussi pauvre dans le jeu que celle que l'on a vue samedi dernier.
Alors c'est un match nul consécutif à un match nul déjà la semaine d'avant, et deux fois de rang vous partagez les points quand Dinan partage aussi les points, ce qui fait que vous ne recollez pas au classement. C'est ce petit regret finalement quand le match est terminé de voir que Dinan a aussi été accroché et qu'il y aurait eu mieux à faire finalement.
Ouais, alors avec une analyse vraiment complètement différente entre les deux matchs, parce que comment dire, sur le match de Vitré on avait été plutôt bon, et comment dire, à la mi-temps, il nous avait manqué juste l'efficacité pour prendre un ou deux buts d'avance. Et alors que sur le match de Lannion, si on n'a pas un gardien qui fait vraiment une belle partie, on aurait dû perdre ce match. Donc voilà, on a sur les deux matchs, on a deux points en faisant deux nuls. Si on avait fait victoire Vitré et défaite Lannion, qui était des quelque chose de plus en cohérence avec le jeu qu'on a proposé, on aurait un point de plus et ça serait mieux.
Et en effet, ce serait mieux pour la course à la montée. D'ailleurs, vous avez 4 points de retard sur Dinan Léon. Vous y croyez à cette montée, ou on se dit que ça reste extrêmement délicat de passer sur les 4 dernières rencontres?
Non, forcément, ça va être délicat. Maintenant, il reste 4 matchs. Tout le monde, de toute façon, va les jouer pour les gagner, hein, que ce soit en haut ou en bas. Donc voilà, ça va être 4 matchs disputés, mais pour l'instant, on les prend un par un. On ne se prend pas la tête comme l'année dernière. On n'est pas dans la même position, puisque l'année dernière, on était dans la position du chassé. Cette année, on est plutôt celle du chasseur, mais voilà, sans avoir non plus énormément de pression quant au résultat.
Si montée il devait y avoir, ça vous oblige au sans faute, là, selon vous, Johan, sur cette fin de saison?
Forcément, il va falloir qu'on s'en rapproche avec il nous reste quand même 4 matchs assez compliqués, puisque comme on est là, on reçoit la TRN, derrière on va à Locminé, alors bon, ça dépendra un petit peu des matchs et des résultats qui vont avoir lieu dans les différentes journées. Ensuite on ira à Dole et on recevra Plavenec, donc très certainement que si on veut accrocher la première place, il faudra pas être loin de faire le sans faute.
Vous en parliez il y a un instant, ça fait 2 années de suite finalement que Milizac joue les premiers rôles de ce championnat de National 3. En quoi vous avez progressé, vous avez appris de ce que vous avez vécu la saison passée?
On a une équipe qui joue différemment. L'année dernière, on avait un gros bloc défensif avec une grosse individualité en la personne de Mohamed Amek qui nous avait mis 22 buts ou 23, je crois que c'est 22. Là cette année, on a une prestation collective qui est beaucoup plus cohérente, un jeu qui est beaucoup plus maîtrisé, et comment dire, derrière on n'a pas de joueurs au-dessus de 7 buts, donc voilà, il y a beaucoup plus de joueurs qui peuvent marquer, et notre jeu est plus en adéquation avec ce que je recherche par rapport à l'année dernière où c'était beaucoup d'exploits individuels en fait.
Et du coup, si il n'y avait pas cette montée là à l'issue de la saison, est-ce que ça deviendrait un vrai objectif cette fois pour l'année prochaine alors?
Pas du tout, comment dire, déjà que la saison cette année était compliquée puisqu'il y allait avoir 5 décembre. L'année prochaine, quand on voit les équipes qui potentiellement vont former le groupe de National 3, avec les descentes de Vannes, potentiellement les descentes des réserves que ce soit Lorient, Guingamp ou Rennes, non, ça va être quelque chose qui va être encore très très compliqué, mais il faut se rendre compte que en fait, quasiment avec la refonte des, enfin ou la restructuration de la pyramide, au niveau de la FFF, on monte quasiment hein, d'une année ou d'une demi-année, on va dire chaque saison, parce que bah, les groupes sont de plus en plus compliqués.
Ouais, c'est ça, ouais. Il va avoir du lourd hein, évidemment dans ces divisions avec les nombreuses descentes en effet. Merci beaucoup en tout cas Johan d'avoir répondu.
J'ai juste une question pour Johan. On a eu Stéphane Lamand, l'entraîneur de Dinan-Léon, je crois que c'était il y a deux mois. On le lançait sur cette potentielle montée et il nous disait alors que ça serait peut-être pas une mauvaise nouvelle de monter en N2, mais que c'est tellement compliqué en ce moment financièrement pour des clubs de votre envergure d'exister dans ces championnats, avec en plus, vous en parliez de cette refonte qui va encore continuer l'année prochaine en N2. Si jamais vous montez, comment accueillir cette montée-là? Est-ce que ça serait pas un cadeau empoisonné?
J'étais avec Steph Lamont pendant une heure ce matin au téléphone, on en discutait. Eux savent pas trop non plus sur quel pied danser, hein, puisque comment dire. Aujourd'hui, des clubs comme nous, avec les budgets que l'on peut avoir, on est loin du compte. Hein, parce que si on prend un budget moyen de N2, c'est 1,2 million. Nous, on atteint difficilement les 400 000. Ouais. Vous voyez le delta qu'il peut y avoir. Donc, et encore, eux, ils sont dans une partie de Bretagne où ils peuvent faire leur marché un peu plus facilement, parce que plus proche de Rennes, qui sort quand même pas mal de joueurs. Nous, on est au fin fond du Finistère, il y a déjà Brest. Donc forcément que le budget ne va pas non plus être multiplié par deux. Donc ça serait forcément difficile. Maintenant, si on était amené à y aller, tout simplement, ça serait une année pour voir. Comment dire, l'année prochaine, il y aura trois groupes à 14 en N2 avec 6 descentes. Ça veut dire que plus la montée, il en restera simplement 7 à figurer l'année d'après dans le groupe de N2. Donc, forcément, oui, c'est compliqué. Moi, j'ai les joueurs 4 fois semaine à l'entraînement. Leur dire à un moment ou à un autre on va pas y aller, ça n'aurait pas de sens non plus. Ouais. Donc le reste c'est pas mon rôle quoi. Ni celui des joueurs d'ailleurs. Nous on fait le maximum sur le terrain pour avoir la meilleure place possible et proposer le meilleur jeu. Après, ça c'est le reste, c'est les dirigeants, pour que ils fassent le nécessaire pour qu'on puisse y aller. Et je sais qu'on a un président qui est ambitieux, donc voilà, on verra bien quoi ce que ça peut donner.
On va suivre ça avec passion. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt.
Bonsoir. Au revoir.
Merci, bonsoir. Retour du magazine des déchaînés du football juste après les informations de 20h. Il est 20h02. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Une prise d'otage débutée ce lundi matin dans la commune de Quincey dans la Vienne s'est achevée en milieu d'après-midi vers 15h40, annonce la préfecture. L'individu suspecté a été interpellé. La préfecture précise qu'il n'y a eu aucun blessé dans l'intervention qui a eu lieu dans cette commune d'un peu plus de 2000 habitants située à l'ouest de Poitiers. Le parquet est sur place. 4 personnes étaient retenues dans une habitation par un homme. Plus de 70 gendarmes issus du département ou membres du GIGN étaient mobilisés, ainsi que des membres des secours appartenant aux SDIS et au SAMU en cas de blessé. La préfecture de la Vienne précise qu'un individu dangereux récemment sorti de prison est soupçonné d'être l'auteur de cette prise d'otage. Dans un entretien accordé aux Parisiens, Emmanuel Macron estime qu'il aurait dû plus se mouiller sur la réforme des retraites et annonce qu'il va se réengager dans le débat public. Une stratégie déjà à l'œuvre depuis plusieurs jours avec notamment 2 déplacements la semaine dernière. Du côté des oppositions, Manuel Bompard de LFI a fustigé une interview empreinte de mépris pour le coordinateur national de la France Insoumise. Cet entretien donne de la part du chef de l'État ce sentiment que les Français n'ont pas très bien compris. L'algorithme du Nutri-Score évolue. Le mode de calcul de ce score nutritionnel allant de A à E sur les emballages alimentaires va promouvoir des choix alimentaires plus favorables à la santé, annonce la Direction générale de la santé dans un communiqué publié aujourd'hui. Ce processus de révision a été finalisé par le comité de pilotage constitué des autorités compétentes de la gouvernance transnationale du Nutri-Score, à savoir la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse. Ce nouvel algorithme sera mis en œuvre à partir de la fin de l'année 2023. Et puis l'empire de Jeff Bezos contre-attaque. L'entreprise d'Amazon s'est fendue hier d'un communiqué pour répondre au message au vitriol de Blanche Gardin, dans lequel la comique accusait le géant du commerce en ligne de ne pas payer ses impôts en France. La déclaration de Madame Blanche Gardin contient des commentaires faux et inexacts à propos d'Amazon, assure notamment la plateforme dans un communiqué.
Retour du magazine des déchaînés du football, 20h07, on est ensemble jusqu'à 20h30 avec une dernière partie consacrée à Guingamp, à l'En Avant Guingamp. Mais avant de parler de l'En Avant Guingamp, on va continuer de parler du championnat de National et de National 2, et notamment en National de Saint-Brieuc et de Concarneau.
Oui, on va commencer par Saint-Brieuc et Concarneau justement. Victoire pour les deux clubs ce week-end en championnat. Victoire des Concarneaux déjà à Avranches 3-0, doublé de Fed El Koumisti. Un but aussi d'Antoine Rabillard pour les Concarnois. Et puis du côté de Saint-Brieuc, une victoire 2-1 face à la Berrichonne de Châteauroux. C'est Hicham Benkaïd qui a ouvert le score. 10e but en 15 matchs cette saison pour l'ancien Orléanais. Égalisation de Benjeloud Youssouf à la 37e. Et puis en seconde période, c'est le capitaine et ancien Guingampais Benjamin Angoua qui a offert la victoire d'une tête sur un corner. Victoire 2-1 des Griffons. Au classement, les Briochiens sont 15e avec 33 points, mais ils ne sont plus qu'à 3 points du premier non relégable avec un match de moins qu'ils joueront demain face à l'AS Nancy-Lorraine, elle aussi dans la zone rouge. Comprenez donc que c'est un match évidemment capital pour la suite de la saison de Saint-Brieuc. Avec une victoire, les briochins recolleraient à Avranches, mais resteraient en revanche dans la zone rouge en raison de la différence de but particulière. Match évidemment donc demain soir à 19h30. Et Concarneau,
et on y reviendra dans la rubrique de mercredi.
Exact. Et Concarneau est en tête avec 55 points, 3 points d'avance sur Martigues et Dunkerque qui s'affrontent ce soir. Martigues reçoit Dunkerque à 21h. Donc Concarneau est sûr de rester dans les deux premiers, soit dans les deux places d'accession vers la Ligue 2 à l'issue et de cette 30e journée.
En plus, je ne me souvenais plus, Gaëtan, mais Concarneau a eu un match perdu sur tapis vert, plus un point de pénalité, non ?
Oui, mais a aussi gagné un match sur tapis vert à Nancy, le 0-0. Ils l'ont gagné sur tapis vert, donc ils ont récupéré finalement 2 points.
Mais ils ont un point au moins quand même.
Ils ont perdu le point du nul plus un point de pénalité et ils en ont gagné 2. Donc non, en fait c'est
D'accord, ça s'équilibre.
C'est à l'équilibre total, ouais, pour Concarneau, 55 points. Et on attend évidemment le palpitant Martigues Dunkerque de ce soir, en sachant qu'il y aura Concarneau Martigues vendredi également, là aussi match bouillant pour le haut de tableau.
National 2 maintenant, puisqu'on est dans la partie Guingamp, une bonne nouvelle pour la réserve d'en avant qui a gagné à l'Académie 1-0 contre Saint-Privé-Saint-Hilaire, but d'un nom qu'on connaît bien avec les pros, Tyler Louvambo qui a marqué à la 52e minute. Alors ça n'empêche pas les Guingampais d'être toujours relégables, mais ils sont toujours vivants les Guingampais. La mauvaise nouvelle malheureusement elle est venue de Blois, où Blois a battu Vannes dans le temps additionnel 2-1. C'est un score qui condamne quasi définitivement malheureusement les Vannetais parmi les autres clubs breton. Saint-Malo a battu Châteaubriant 1-0, but d'Iva, et Rennes B s'est donné un peu d'espoir en gagnant 2-1 contre Évreux grâce à un doublé du fils d'Omar Colino. Rouen est en tête avec 56 points. Attention, ils ont perdu ce week-end. Colombes n'est plus qu'à 2 longueurs. Saint-Malo 6e, 38. 11e, Blois, premier non relégable, 28 points. 12e, Guingamp B, 27. 13e, Rennes B, 21. 15e, avant-dernier, Vannes avec 17 points. Notez aussi que la réserve de Lorient a gagné 1-0, mais ils sont plus relégables, mais ça joue à pas grand chose. C'est égalité.
Je crois que ça se tient entre 2 points sur 5-6 équipes, non ?
Ouais, c'est ça. Il y a 3 points avec Chamalières, Trélissac 35, Bourges 33, Lorient B et Andrézieux 32. En National 3, on en a parlé tout à l'heure. J'avais les résultats sous les yeux, je vais les retrouver, c'est pas possible. Match nul et statu quo donc en tête entre Dinan-Léon et Milizac. Dinan a fait 2-2 à Vitré et Milizac a fait 0-0 à Lannion. Victoire incroyable de la réserve de Brest à Plabennec, 7-3. La TRN a battu Cesson 3-1. Dole, dans le duel des deux derniers, a battu la Montagnarde 1-0. Match nul entre Fougères et la GSI Pont TV, un but partout, et Locminé a battu la réserve de Saint-Brieuc 1-0. Dinan en tête 47, deuxième Milizac 43, troisième Fougères 39, Vitré 37, Lannion 34, un peu plus loin Locminé 7e 29, Saint-Brieuc B 26 comme Plabennec, Pontivy 24 comme Cesson et les trois derniers. Brest B qui s'est relancé dans la course au maintien, 22 points, Dole 17, la Montagnarde 15. Allons-y pour Guingamp.
On bascule sur la Ligue 2 donc avec l'en avant Guingamp et la défaite de 2-1 à Pau. Ça met un terme à la toute petite série qui avait démarré puisqu'il y avait eu un nul au Havre chez le leader 0-0, une victoire séduisante face à Amiens 3-1 à Roudourou, et puis voilà la défaite à Pau qui a suivi alors que ça avait bien démarré pourtant pour Guingamp, mais ça n'a vraiment pas duré sur la totalité du match. En fait, ça a duré que quelques minutes, cet avantage et cette maîtrise déployée par les Guingampais. On va y venir évidemment, et on commence tout cela par le résumé de ce match entre Pau et Guingamp. Le bon décalage côté gauche vers Hugo Picard. Picard avec peut-être finalement non Godin, mais Picard qui va tenter sa chance. Et l'ouverture du score, Hugo Picard à la 5e minute. Magnifique but de Picard comme à Paris il y a quelques semaines à Charletti. Picard qui enveloppe un ballon pied droit depuis l'extérieur de la surface de réparation à l'angle de cette surface de réparation côté gauche pour trouver le petit filet à l'opposé. Et Guingamp qui ouvre déjà le score dans cette rencontre. Magnifique but d'Hugo Picard, son deuxième en Ligue 2. Quelle inspiration du jeune Guingampais, le Messi de l'Argoite, comme il est surnommé. Guingamp mène 1-0 à Pau. Attention, ce ballon de Kofi, le centre de Kofi, l'égalisation. Henri
Cévet qui égalise au deuxième poteau, le ballon qui a traversé toute la surface des 6 mètres pour parvenir à Henri Cévet au deuxième poteau. Aucun Guingampais n'est intervenu et Cévet au deuxième qui n'a plus qu'à pousser ce ballon dans le but vide. Les Palois égalisent déjà face à Guingamp, 8-9 minutes après l'ouverture du score de Picard. Un partout entre Pau et Guingamp. Ce ballon vers Bassoamina dans la surface. Bassoamina, il y a Basilio et le ballon qui va passer à côté du cadre. Est-ce que c'est un 6 mètres ou un corner? Je crois pas que Basilio l'ait touché. Il avait été trouvé dans le dos de Ryu. Mons Bassoamina, il s'est emmené le ballon à l'entrée des 6 mètres et derrière la sortie assez rapide quand même de Basilio. Au point de pénalty, tête de Courtais pour écarter le danger, ça revient avec Abzi, frappe du pied gauche d'Abzi à côté du cadre, lourde et puissante frappe alors que Basilio n'avait pas bougé sur sa ligne, le ballon passe à côté, il a surtout été dévié. Qui va temporiser, retrouver Muyumba juste derrière lui. Muyumba qui insiste à l'entrée de la surface. Muyumba, il faut frapper peut-être. Muyumba avec Courtais. La frappe de Courtais captée par Jérôme Prieur. C'est Dalmeida qui peut intercepter et les Palois qui peuvent se relancer avec Bosnar pour aller chercher ce ballon vers Bassovina. L'entrée de la surface, la sortie kamikaze. La sortie kamikaze de Denzo Basilio et le ballon pour les Palois, le coup franc pour les Palois, grosse faute à l'extérieur de la surface et là on craint le pire. Carton rouge pour le gardien de Guingamp, Enzo Basilio expulsé à la 51e minute de jeu.
Dans le bas du classement pour
Laval, attention
à ce
ballon pour les Palois. Le magnifique but, l'enveloppé du pied droit de Yanis Begraoui à l'issue d'un redoublement de passe dans la surface de réparation. Youfegan ne peut que s'incliner et la frappe de Begraoui termine au fond à 10 contre 11. Guingamp plie sur la pelouse de Pau, 2-1. La défaite des Guingampais 2-1, stoppée dans leur élan après 4 points en 2 matchs. Guingamp est freiné à Pau, défaite 2-1.
Oui, défaite de Guingamp et pourtant il y avait eu cette magnifique inspiration d'Hugo Picard, un petit peu comme son but qu'il avait marqué au Paris FC début mars. Guingamp a démarré fort, il y a eu une bonne entame avec ce but, avec globalement un bon visage montré parce que Guingamp avait la possession, avait la maîtrise du jeu. N'avait rien concédé sur les 5 premières, ni sur les 10 premières minutes d'ailleurs, quand Guingamp a marqué juste après les. Il n'y a pas eu vraiment de réaction immédiate des Palois. Mais voilà, cette bonne entame n'a pas été plus loin que cela. Stéphane Dumont a quand même apprécié ce début de match de son équipe.
Oui, c'est ça. Sur le premier quart d'heure, j'ai aimé le fait qu'on veuille imposer des choses par le jeu, par de la maîtrise. Et récompensé fort joliment par le but d'Hugo. Maintenant, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps dans le temps et qu'on ne soit pas que cantonné à ce genre de choses tout le match. J'aurais voulu qu'on mette un peu plus de variété, qu'on soit un peu moins lisible et qu'on soit un peu plus tranchant aussi. Donc non, j'ai aimé la façon dont on a sorti les ballons dans le premier quart d'heure, la façon dont on a marqué le but. Mais j'aurais aimé... que ça dure dans le temps et que ça soit pas annihilé à cause de, j'allais dire, de la première incursion adverse et d'une grossière erreur de grossières erreurs individuelles sur l'aspect défensif.
C'est assez étonnant, Pierre, quand même, de voir ce bon début de match très cohérent. Et puis d'un coup, plus rien, tout le monde s'écroule.
Ouais, comme si à la moindre poussière tout s'était effondré en fait, parce que vraiment, j'ai pas le souvenir de voir Pau dangereux avant leur but.
Non, pas du tout.
Au bout d'un quart d'heure, et comme vous savez, ce qui s'était passé lors du premier match de Ligue 2 après la relégation, ouais. Le Guingamp-Grenoble, où Guingamp roule sur Grenoble pendant quoi 45 minutes, et il y avait une boulette de Caillard, et tout s'était effondré pour Guingamp. Alors là, c'est pas le même état mental, mais ouais, ça a été très étonnant. Et puis il parlait d'erreurs techniques, défensives sur le premier but. Moi, j'ai pas compris. pourquoi Ryu s'est tourné dans ce sens, ouais, sur le centre.
Pour moi, il y a même trois erreurs. Il y a Jules Godin qui est pris de vitesse déjà sur le très bon contrôle de Kofi qui se met le ballon dans la course. Là, il est éliminé déjà sur, rien que sur la prise de balle en fait, de Kofi. Il y a Ryu, en effet, qui se tourne bizarrement, qui n'intervient pas et qui, du coup, laisse Seve dans son dos. Et puis, il y a Basilio, parce que le ballon est dans les 6 mètres, quand même. Donc, peut-être que Basilio peut aussi intervenir sur ce ballon-là. Alors, ça arrive vite, ça arrive fort. Mais voilà, je trouve que ces trois hommes-là peuvent mieux faire chacun à leur tour et que, ben, finalement, personne n'y parvient. Et Seve est trouvé tout seul au deuxième poteau.
Ouais, ça a été les trois, on va dire, les plus en difficulté sur ce match-là, hein, même si, bon... Il n'y a pas franchement grand monde à ressortir. Peut-être Picard évidemment avec son but, mais ça a été une faillite collective dans l'ensemble, ouais. Et puis les jeunes, on en reparlera tout à l'heure. Ça peut aussi faire partie de l'apprentissage de vivre des soirées comme celle-là. Mais c'est plus effectivement ce décalage. Si encore tout le match avait été raté, bon bah voilà. Mais pourquoi autant de décalage entre un premier quart d'heure ultra maîtrisé et tout le reste?
C'est vraiment très bizarre. Ouais, c'est le but qui a déstabilisé tout le monde, mais ça paraît quand même très étonnant, une telle différence en effet entre ces 15 et 75 dernières minutes. Une équipe en panique, c'est ce que le coach Stéphane Dumont a analysé, notamment donc après cette égalisation paloise.
Mais j'ai senti un peu moins de sérénité sur le plan défensif de la part de mes joueurs dès qu'on a pris ce but, comme si ça nous avait fragilisé, comme si on était un peu parfois en panique alors que il y avait pas mal de choses à régler de manière plutôt facile et avec de la communication. Et puis ensuite je trouve aussi que l'arbitrage ne nous a pas aidé ce jour-là mais qu'on s'est vite aussi énervé contre ça et donc ça a fait une deuxième partie de mi-temps assez brouillonne.
Ouais, une deuxième partie brouillonne alors sur la première période et puis toute la deuxième mi-temps qui a été en plus disputée à 10 contre 11 pour ne rien arranger de la soirée guingampaise. Dernière page de pub dans ce magazine des déchaînés du football et on revient à nouveau avec Stéphane Dumont.
Nous avons fait appel à France Rénov' pour notre copropriété.
Oui, un conseiller nous a recommandé d'isoler les façades et de changer les fenêtres.
Au départ, on était réticents à cause du coût des travaux, mais le conseiller nous a rassurés et bien guidés. Et l'aide MaPrimeRénov' copropriété a fini de nous convaincre.
Alors, et maintenant, vous en pensez quoi, Maurice, des travaux?
Oh, super. On a gagné en confort et on a diminué nos factures de chauffage.
Et puis, on a fait un petit geste pour la planète. Avouez, Maurice.
France Rénov', la rénovation énergétique pour tous.
France Rénov' est le service public de la rénovation de l'habitat. Renseignements sur france-rénov.gouv.fr.
BMW. Relevez tous les défis du quotidien avec la BMW série 2 Active Tourer. Disponible également en hybride rechargeable, son autonomie jusqu'à 93 km en mode électrique fait de chaque trajet en famille un moment de plaisir. La BMW série 2 Active Tourer finition M-Sport est à partir de 490€ par mois sans aucun apport.
Exemple pour une BMW de 18 et Active Tourer M-Sport. Offre LLD 36 mois, 30 000 km valable jusqu'au 30 juin 2023. Réservé aux particuliers si accord par BMW Finance. Détails sur bmw.fr.
Pensez à covoiturer.
Hey! Jusqu'au 30 avril chez Domino's, on t'offre une pizza! Et oui! Commande sur l'application et bénéficie d'une pizza offerte à emporter et en livraison.
Domino's!
Offre non cumulable, valable pour l'achat minimum d'une pizza. Pizza offerte égale la moins chère des deux. Conditions et magasins participants sur domino's.fr. Pour votre santé, bougez plus!
La dernière ligne droite du magazine des déchaînés du football ce soir sur Radio Bonheur, 20h22.
Oui, et on continue de parler de cette équipe de Guingamp. On a dit une équipe en panique après l'égalisation de Pau, le but d'Henri Seve. Et puis une équipe avec pas mal de jeunes, c'est vrai. Hein. Il y avait Jules Godin, Mathis Rioux, Hugo Picard, qui ont déjà été peut-être le seul un petit peu à surnager de par son but. Mais des jeunes qui ont été en difficulté, parce qu'on l'a cité sur le premier but notamment, Godin et Ryu sont impliqués. Ryu est aussi impliqué sur l'expulsion de Basilio parce qu'il est pris dans le dos au départ par Mons Baswamina. Des jeunes qui n'ont pas forcément répondu là, présents sur les moments clés de ce match, et une jeunesse tout simplement en difficulté, explique Stéphane Dumont.
Mais la jeunesse aussi dans ce secteur, quand je dis jeunesse, quand on parle de Matisse et Jules, mais aussi même de Donat, même s'il a eu beaucoup de répondants au sein du match, voilà, c'est quelqu'un de tout neuf. Ouais, on a senti que sur chaque incursion, sur chaque accélération, sans concéder grand chose, voilà, on pouvait être mis très vite hors de position. Et je pense que ça démarre d'un manque d'intensité et d'agressivité sur le porteur du bloc équipe, notamment sur les lignes plus hautes que la défense. Et puis ensuite, voilà, il y a des mauvaises trajectoires, il y a de l'intensité à mettre dans des duels qu'on a un peu moins bien fait.
Oui, ça a été moins bien fait, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé en tout cas des Palois beaucoup plus entreprenants à la récupération du ballon, même sur les deuxièmes ballons, dans les duels. J'ai trouvé que Pau était vraiment un ton au-dessus de Guingamp sur ce match.
Ouais, comme s'ils avaient haussé le curseur après un quart d'heure difficile aussi, et que Guingamp était incapable de répondre en fait à ce défi imposé par les Palois. C'est vrai que c'est comme si on avait été dans les cordes pendant 75 minutes.
Ouais, j'ai trouvé par exemple, c'était marquant, je trouve par exemple Jean Ruiz qui a pris le dessus sur les attaquants, même d'Almeida aussi au milieu. Guingamp n'a quasiment pas répondu à ça, quoi. Alors que contre Amiens, qui certes n'avait pas proposé grand-chose, il y avait eu ce répondant-là. Et puis au Havre aussi, face au leader qui athlétiquement est plutôt fourni, Guingamp
finalement
avait répondu.
C'était peut-être une mauvaise chose de marquer si vite dans ce match, d'avoir cette maîtrise-là. On s'est dit, bon, bah, pépère, tranquille. 4-0 à l'aller, 1-0 au retour, au bout d'un quart d'heure, on déroule. Et bah, pas du tout. C'est une bonne leçon dans cette... Mais c'est ce qui pend au nez aussi de cette équipe qui avait très bien fini l'année dernière alors qu'il n'y avait plus grand chose à gratter, même si on sentait que cette équipe pouvait aller chercher une très belle place, et notamment la sixième. Là, il n'y a pas un classement à friolant à aller chercher, enfin super excitant, si non, peut-être la huitième place, top 10. Donc bon, c'est vrai que l'enjeu au classement...
Il n'y a pas les barrages cette année.
Ouais, bah il n'y avait pas non plus l'année dernière, mais quand même, il y avait cette sixième place
si,
et on sentait...
Bah oui, pas accessible, quoi.
Oui, mais c'était Guingamp qui a 10 points, 15 points à un moment donné.
Très loin.
Mais on sentait qu'il y avait cette carotte de la 6ème place, parce qu'on voyait Caen et Le Havre qui étaient un peu en train de ronronner aussi de leur côté. Là, ouais, je trouve qu'il n'y a pas cette carotte-là. Et donc, c'est ce qui peut guetter un peu Guingamp, je trouve, peut-être même plus à l'extérieur qu'à domicile. Où, même si Guingamp était longtemps en difficulté à domicile ces derniers temps, ça va beaucoup mieux maintenant. Voilà, à l'extérieur, se dire, bon, bah voilà, c'est comme... Voilà, je pense que c'est un danger qui peut guetter, ouais, Guingamp dans cette fin de saison.
C'est possible. Et à cela, eh bien, vient le manque d'intensité. On l'évoquait déjà un petit peu avec les duels, notamment l'impact mis par les Guingampais. Le manque d'intensité des Guingampais, pourquoi ? Réponse de Stéphane Dumont.
J'ai vraiment senti mes joueurs concernés, je les ai vraiment sentis impliqués, je les ai vraiment sentis d'essayer de prendre le match par le bon bout et de faire les choses de la meilleure des manières. Peut-être de manière un peu maladroite, avec un chouïa moins d'intensité, en étant peut-être en gérant un peu plus par le placement qu'un niveau d'agressivité élevé. Même si la première mi-temps est un peu en deux temps, il y a la seconde qui est ternie de suite par un carton rouge. Donc l'analyse, parfois, elle peut être erronée. Il y a personne qui dit qu'avec les rentrants qu'on avait prévus et le banc qu'on avait, on n'aurait pas été capable aussi de mettre beaucoup d'intensité sur les 30 dernières minutes du match.
Ouais, c'est vrai, peut-être qu'à 11 contre 11, l'histoire aurait été différente avec les entrants qui, pour le coup, n'ont pas du tout été impactants sur ce match-là. Loisani, Barthelmé, qui est entré, Merghem.
Manceau.
Ça a été correct dans son couloir. Il n'a pas, en tout cas, pas pris de vague. Il n'y a pas eu de danger particulier à venir de là. C'est peut-être le seul élément à retenir parmi les entrants. Pour le reste...
Guingamp 11e comme Lorient. Qu'est-ce qu'on peut espérer alors dans cette fin de championnat, le top 10?
C'est ce qu'on disait. Ouais, je pense que allez, jusqu'à la 8e place, peut-être pas plus haut certainement. Parce que Grenoble en plus n'a pas joué. Même si ils n'ont pas non plus gagné ce soir à Bordeaux. Mais ouais, le top 10, Guingamp devra de toute façon se contenter de ça au mieux. Parce que il n'y a pas, comme le disait Pierre, de place vraiment plus spectaculaire à aller chercher.
Moi, je pense au-delà du classement, c'est plus du plaisir. On en a pris sur le match contre Amiens l'autre jour. Voilà, c'est ce genre de match-là. Alors, il n'y aura peut-être pas des victoires à chaque fois, mais au moins, voilà, une équipe qui va de l'avant avec des entrées effectivement impactantes, comme El Ouazani. c'est ça, plus du plaisir, comme la fin de saison dernière, on fait souvent le rapprochement.
Alors Laval sera l'équipe qui va donner du plaisir aux supporters, aux joueurs guingampais. Peut-être, ça va pas être facile, hein, Laval qui se bat pour le maintien et qui a gagné en plus, je crois, son dernier match.
Ça dépend de Guingamp. C'est Guingamp qui devra donner du plaisir. Après, on verra selon l'équipe en face. Mais c'est vrai que Laval, alors j'ai l'impression, c'est peut-être faux, que c'est une équipe plutôt joueuse. Alors après, leur situation fait peut-être qu'ils vont venir avec un bloc bas pour essayer de chercher le 0-0 ou un petit contre et gagner un 0 ou 2-0. Bon, on verra, mais on a envie d'une part d'une réaction sur le prochain match par rapport à ce qui s'est passé dans le contenu contre Pau, et puis continuer cette lignée qui est quand même intéressante à domicile. On a suffisamment dit cette saison que les résultats n'étaient pas bons du tout. Là, je crois que c'est quoi, 3-4 victoires sur les 6 derniers matchs, et puis les deux matchs perdus, c'était pas des mauvais matchs, surtout celui contre Caen. Il y a eu pas mal d'occasions, donc voilà, c'est ça qu'on recherchera d'abord, avec des matchs sympas aussi à jouer. Laval, qui a l'objectif du maintien, et puis au mois de mai, il y aura aussi un Guingamp-Metz qui se prépare, donc ouais, ça va être des moments intéressants. Alors évidemment, Guingamp n'aura pas d'enjeu terrible, mais il sera un peu arbitre du maintien et de la montée.
Merci messieurs, il est presque 20h30, prochain rendez-vous avec les déchaînés du football, La Quotidienne, demain matin à 8h40 et à 17h40, et pour les matchs de foot, donc la Ligue 2 avec Guingamp, on l'a dit, contre Laval, réception au Roudourou, ce sera samedi prochain, match à 19h, il y aura aussi un match à 17h05 dimanche prochain, avec un match compliqué là pour le déplacement au Parc des Princes, ce sont les Merlus qui se déplaceront au Parc des Princes, et puis match décalé au 3 mai pour les Brestois, match là hyper important. Alors là, s'il y a bien un match là important dans les trois matchs qui viennent pour les clubs que nous suivons, c'est bien celui-là.
Ça puisque
Brest recevra les Nantais, deux clubs qui se battent pour le maintien. Bonne soirée à tous.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'écouter Radio Bonheur. Chaque semaine, Radio Bonheur est écouté par plus de 225 000 personnes en Bretagne. Sondage Médiamétrie Média Local en habitude d'écoute, 225 600 personnes, auditoire semaine, Radio Bonheur en Bretagne, septembre 2020 à juin 2022, du lundi au vendredi, 13 ans et plus.
Tous ensemble avec mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, oh oh, on écoute Radio Bonheur.
Toute la journée, toutes les heures, on écoute Radio Bonheur.
Oh, oh, oh. Century 21 Cœur de Penthièvre vous propose en exclusivité des appartements neufs de standing à Pléneuf-Val-André.
Changez de vie et profitez de tous les avantages de la cité balnéaire de Pléneuf-Val-André.
Ses plages de sable fin, son golf, son casino, sa digue promenade, son spa marin.
Dans le centre de Pléneuf, saisissez l'opportunité d'acquérir un appartement neuf du T2 au T4 duplex.
À partir de 183 200 euros, frais de notaire réduit.
Renseignements au 02 57 67 11 16
ou sur le site century21-cp-lamballe.com.